La démarche prospective, en fait, suppose de la méthode, mais elle appelle aussi une posture spécifique. C'est du moins ce dont il s'agit quand on se réfère à un courant de la prospective qu'on appelle le courant humaniste de la prospective, tel que l'avait initié Gaston Berger juste dans l'après-guerre. Il affirmait alors la responsabilité collective dans la société à construire. Cette société de l'après-guerre, donc, était extrêmement détruite, déconstruite au plan matériel, hein, les logements, les infrastructures, les routes, mais aussi au niveau de son tissu social qui était vraiment à réparer, contrairement à l'idée reçue, hein, d'une société complètement unie autour de la résistance à la guerre et à l'occupant. Mais pourtant, malgré cette situation économique et matérielle dégradée, malgré cette cohésion sociale très fragile, cette société a réussi à avancer, conçu et construit ensuite un avenir. Alors, concevoir et construire l'avenir, c'est bien ce dont il s'agit quand il est question de démarche prospective, c'est ce dont il devrait être question dans notre société qui est tellement traversée de crise. Ce qui nous environne, ce qui nous conditionne et probablement nous emprisonne, finalement nous sature, est fait de certitudes, trop de certitudes, trop d'affirmations sur ce qui est, sur ce qui devrait être, sur ce qui adviendra nécessairement, comme si le futur y était déterminé, comme s'il était prévisible. Certes, on a aussi beaucoup de personnes qui s'expriment au sujet de l'incertitude. Nous sommes dans l'ère de la défiance, du doute, de la crise des institutions, et donc nécessairement, le recul de la participation démocratique est là, mais va aussi se développer. Nécessairement, la crise économique est là, mais va s'accentuer, à moins bien sûr que l'on adopte un plan qui est de toutes les manières déjà prévu. Paradoxalement, on voit se développer une certitude autour de l'incertitude. Elle fabrique un schéma de pensée plus négatif. Cette chape de plomb pèse sur les termes du débat public et elle résulte en fait d'une conjonction singulière qui est peut-être finalement reliée à la même racine commune, celle de la culture politique, où tant les dirigeants politiques que les médias véhiculent des approches assez tranchées et en même temps ils véhiculent des faits anecdotiques, des faits divers, du pathos. Ces approches sont finalement très peu ouvertes, elles font très peu de place à ce qui bouge dans la société des gens ordinaires, elles ne font pas non plus beaucoup de place à ce qui se bouge dans la société des militants. Alors certes, il est par exemple tout à fait indispensable de mettre en lumière dans un article d'un grand journal comme Le Monde à quel point le département de la Seine-Saint-Denis concentre des inégalités que la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer finalement. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas en même temps dans cet article toutes les initiatives militantes sur le terrain, dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les coopératives, dans les entreprises sociales qui s'échinent à développer des circuits courts, à créer des activités d'aménagement du territoire qui vont conjuguer insertion et développement durable. Certes, de même, il est indispensable de communiquer sur la Convention citoyenne, sur ses travaux, sur ses avancées, sur ses propositions, mais aussi sur ses déceptions. Mais pourquoi est-ce qu'on ne communique pas en même temps, pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas en même temps sur toute la masse des initiatives économiques et citoyennes qui, partout en France, traduisent une mobilisation concrète pour le développement durable? En somme, ce que je vais illustrer par là, c'est que la démarche prospective me semble d'autant plus indispensable que le contexte pourrait facilement nous conduire finalement à ne plus voir que les tendances lourdes, et elles ne sont pas très encourageantes, on l'a bien vu ce matin, donc avoir surtout le scénario noir et avoir nécessairement ce scénario noir comme celui qui va advenir. Donc on ne verrait même plus finalement en plus positif ce qui émerge ou même plus ce qui pourrait émerger, advenir si nous arrivions à nous mobiliser. Donc on voit du noir, du gris et très peu du rose. La prospective justement, elle est là pour nous aider à construire l'avenir. Il s'agit de penser plus large, de penser plus loin pour mieux agir. Il est en fait indispensable de préserver cette latitude à penser alternatif, à penser positif. Je crois que ce matin, ça a été bien illustré. Il y a énormément d'initiatives finalement qu'on ne valorise pas assez. Ce n'est pas en parlant ainsi une posture naïve, ce n'est pas non plus une posture utopique, mais c'est une posture volontariste, car le choix d'un autre futur nous engage collectivement. Il suppose de le concevoir, ce futur, hein, ce qui n'est pas évident en soi. Il suppose aussi de ce scénario positif, ou cette capacité à penser autrement, d'argumenter et de réaliser ce futur que l'on voudrait voir advenir. Autrement dit, il s'agit de penser aussi, non seulement le schéma général d'analyse, mais les leviers pour l'action. Alors, parmi ces leviers, pour dévoiler un petit peu la conclusion de mon propos et prendre un petit peu d'avance, si on brûle donc les étapes d'une démarche de prospective menée avec rigueur, trois leviers me semblent particulièrement déterminants. Le premier, c'est celui de préserver notre capacité à penser. Le deuxième, c'est celui d'agir sur le terrain et même à toute petite échelle. Et le troisième, c'est de convaincre politiquement en parlant de ce qui se fait. Finalement, ces trois leviers rejoignent l'enjeu majeur de la culture politique. Avec quelques scénarios schématiques, je vais essayer maintenant d'illustrer comment penser le futur, penser et construire un futur souhaitable suppose avant tout d'élargir notre cadre d'analyse pour inscrire dans ce cadre élargi ce que pourrait être le devenir des associations. Car les associations, elles existent et elles existeront au regard de grands blocs de déterminants sur lesquels il faut déjà concentrer notre analyse, et il faut les penser, il faut les penser de manière différenciée grâce à des scénarios, et il faut tenter de peser dans ces grands blocs de déterminants. Le premier grand bloc de ces déterminants est pour moi celui de l'économie. Comment se situer donc au sujet de l'économie ? En noir, on pourrait bien sûr dépeindre le triomphe inéluctable du capitalisme financier, qui d'ailleurs a fait à nouveau la preuve de sa puissance par la figure des GAFA, qui ont même réussi à tirer profit de la crise sanitaire. On pourrait aussi décrire en plus gris le pluralisme en économie qui peu à peu se construit et s'officialise, comme en témoignent les différentes lois ESS qui ont fleuri partout dans le monde, ce qu'étudie par exemple le réseau MS. En rose, on pourrait imaginer peut-être une prise de conscience beaucoup plus forte de l'importance d'une économie alternative, l'économie solidaire, une prise de conscience qui serait accentuée, accélérée par la succession des crises, mais aussi par la mobilisation très très active d'un ensemble d'acteurs sur le terrain, avec notamment, mais pas seulement, toutes sortes d'associations, y compris celles dites gestionnaires, où il existe aussi fort heureusement de nombreux militants. Les grands récits sur l'économie, entre autres, permettent de simuler la réflexion, de sortir de l'impasse d'une corporation, des contraintes ou des échecs. Mais au-delà, comment agir au-delà de la communication sur ces grands récits alternatifs? Il faudrait peut-être parler beaucoup plus de toutes les initiatives d'économie alternative qui, sur le terrain, sont nombreuses. De nombreux médias les nomment, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore un peu plus loin, gagner un pas de plus, afin que la pratique de l'économie alternative, qu'elle entre dans le langage commun, qu'elle fasse partie de la culture commune? Si ce levier en est bien un, il se décline par l'éducation, dès l'enfance jusqu'à l'université, et aussi par l'information la plus large possible. Autrement dit, il faudrait parler de ce qui se fait pour parvenir à peser sur le sens commun, sur les représentations collectives au sujet de l'économie et ainsi agir sur le politique. À propos de politique, justement j'y viens, en noir, on pourrait finalement penser tout de suite au scénario noir du recul démocratique, de la défiance généralisée vis-à-vis du système politique dans son ensemble. En gris, on pourrait voir aussi l'image d'une hésitation entre, d'un côté, en fait, ce schéma en fait très 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 noir du désintérêt et de la désaffiliation, et puis de l'autre, finalement, des mécanismes divers de remobilisation dans une société politique qui est plus diffuse et plus mobile qu'il n'y paraît. En rose, peut-être qu'on pourrait imaginer une ère de réappropriation démocratique avec des pratiques politiques renouvelées, des institutions plus ouvertes sur la société réelle et surtout une culture commune partagée autour de valeurs, de références collectives, de conscience du bien commun. Quid de la cohésion sociale et aussi de tout ce qui la tient de manière centrale comme un système de protection sociale solide ancré dans des valeurs solidaires. Ça, c'est un autre bloc très important pour réfléchir à l'avenir des associations. En noir, on peut évidemment se raconter le recul vers un système de non-protection sociale, une forme de suppression à grande échelle comme il en est question à propos de l'Obamacare. On peut en gris-noir voir comment, malgré des décennies de réformes, le système décentralisé n'a pas dépassé ses propres contradictions, comment la pauvreté n'est pas éradiquée, comment les inégalités de genre demeurent, comment l'équilibre entre les générations est fort malmené. On peut aussi voir en gris-rose comment de nouveaux paradigmes peu à peu s'installent avec une tolérance aux différences, le handicap, la dépendance, le transgenre qui se raffine et aussi pourquoi pas voir dans ce gris-noir l'avancée même lente de la responsabilité sociétale de certaines entreprises qui ne font pas bloc avec l'aile dure du MEDEF. En rose, on pourrait même rêver un système de protection sociale qui aurait avant tout conforté sa logique universelle et solidaire en réaffirmant sa mission première, c'est-à-dire non seulement protéger chacun et tous de manière juste, mais être en cela d'abord peut-être un ciment de la cohésion sociale. Un autre bloc important au sujet desquels il faut se situer est celui des politiques publiques. Là, je vais aller beaucoup plus rapidement, ce n'est pas la peine de s'étendre. On voit bien que le scénario noir est celui du nouveau management public, qui est finalement celui d'une politique publique déshumanisée, d'une technobureaucratie qui est toute puissante, mais qui nous est décrite depuis George Orwell, donc depuis fort longtemps. Est-ce qu'on peut dépasser le scénario gris de politique illisible, souvent en échec, bien qu'elle soit médiatisée à grand renfort de communication et mise en scène comme le Ségur de la santé? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer finalement plutôt un scénario des réussites, un scénario de réussite beaucoup plus large, à partir d'expériences qui existent déjà, comme les territoires zéro chômeur, comme les espaces de renouveau économique? On en voit, par exemple, dans la Drôme, autour d'Oudiwa. Ce sont des expériences extrêmement intéressantes où l'action publique se présente autrement. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? Alors, finalement, ce que je voulais amener par ces propos un petit peu schématiques, volontairement schématiques, puisque ça véhicule simplement des fictions, des façons de voir autrement, la question qui se pose pour moi est de savoir si on ne pourrait pas mobiliser la démarche prospective comme une option politique citoyenne de manière beaucoup plus volontariste. Pourquoi je me pose cette question? Parce que sur le terrain, je travaille avec beaucoup d'acteurs. Finalement, au fil des années, ça fait un nombre significatif. On travaille sur le terrain avec la démarche prospective. Et la question, c'est est-ce que ça pourrait être une option politique beaucoup plus large? Les récits, en fait, dont il est question, les récits au sujet d'une alternative en économie, au sujet d'une alternative en politique, les récits qui nous permettent de critiquer l'impasse dans laquelle nous nous trouvons en matière d'économie, en matière de démocratie, ils sont certes tout à fait indispensables. On a besoin de ces récits pour se situer par rapport à des formats d'analyse. L'affichage des lignes de césure tranchées entre différentes conceptions de la société, de l'économie, de la politique publique, cet affichage de lignes tranchées est très, très important, ça permet de comprendre différentes logiques et différents paradigmes. Mais il faudrait peut-être montrer un petit peu plus les nuances, les zones de flou, les transformations lentes, toute la gamme des hybridations de ce qui se joue dans la réalité. Alors, si on regarde cette réalité de près, avec patience, avec méthode, on peut observer que certains acteurs de terrain, en fait, sont d'une certaine manière en avance sur les penseurs et en tout cas en avance sur les concepteurs des politiques publiques. Ils manient la complexité de manière finalement très, très habile avant que l'on soit parvenu au sommet à caractériser des logiques et à échafauder des systèmes opérants. Par exemple, on observe sur le terrain de nombreuses coopérations, même si, pendant de longues années, les politiques publiques ont poussé à la concurrence. Je crois que les interventions de ce matin en ont témoigné. Il y a cette capacité associative à inventer quand même au plus près du terrain, dans la vie locale. Certains coopèrent, certains inventent aussi à leur manière, dans les pratiques sociales, au sujet de la participation des personnes, au sujet de la gouvernance, au sujet des références collectives, donc de la capacité à participer à la transformation sociale. Et donc, on voit bien que toutes ces mobilisations qui s'inscrivent dans la vie locale, dans la vie citoyenne, elles racontent autre chose, elles fabriquent autre chose que ce grand récit de l'innovation entrepreneuriale qui nous a raconté à force de grandes opérations de communication, qu'il s'agisse de la politique publique, du discours public ou qu'il s'agisse de la stratégie marketing de KPMG ou d'autres. En fait, on a des tas d'expériences de ce type, dont il serait intéressant de parler, et même au sujet de la philanthropie, qui est critiquable comme grand système qui pourrait amener une substitution à la finance, au financement solidaire de la protection sociale, il est intéressant de voir aussi comment sur le terrain, les acteurs s'ingénient à pratiquer l'hybridation financière pour défendre, finalement, avec plus de latitude, un projet associatif, autonome et authentique, donc complètement politique. En somme, ce que j'ai voulu illustrer avec cette présentation de la démarche prospective, c'est qu'elle est politique. Elle a le but de travailler le champ des possibles, de construire un futur choisi, donc d'agir dans la société. Elle permet au passage, par les processus qu'elle induit, de développer la réflexivité. Elle impose une forme de discipline intellectuelle ouverte, non dogmatique. Elle suppose d'assumer l'incertitude et même de la rechercher pour cultiver la latitude dans un ensemble de tensions, finalement, et dans tout ce qui n'est pas complètement réglé. D'où l'intérêt d'ailleurs du scénario gris qui nous permet d'aller regarder de très près la latitude et de dépasser finalement une lecture trop noire faite de certitudes sur qui va forcément advenir en négative. Ça nous permet de dépasser l'idée qu'il y a un scénario de rupture complètement catastrophiste qui devrait s'imposer. Ça nous permet donc vraiment de cultiver l'émergence, de l'identifier et de la faire fructifier. En somme, c'est une philosophie politique pour l'action. Et de manière finalement peut-être un peu paradoxale, je voudrais dire pour finir que c'est peut-être par la capacité à soutenir ce qui se fait sur le terrain à bas bruit, en mode colibri, au niveau des petites transformations économiques, sociales et politiques, qu'elles participent de la grande politique. Autrement dit, je voudrais conclure en disant que peut-être aujourd'hui, c'est parce qu'il se passe sur le terrain, en ce moment, qu'on peut trouver un levier prioritaire pour aller vers un scénario positif qui supposerait, lui, une évolution profonde de la culture politique, de la culture économique, sociale et politique pour être complet. Donc, pour le dire encore autrement, il me semble que donner plus de puissance à ces petits récits est indispensable pour fabriquer un grand récit associationniste, audible, plus largement et susceptible de convaincre. Et c'est ça, de manière très très modeste, mais peut-être qu'on pourrait faire à plus grande échelle, qu'on essaye de cultiver. Quand je dis « on », c'est parce que je connais plein de gens qui font ça, la force politique de la démarche prospective avec les associations.
Merci beaucoup Christine pour cette intervention très, très, très dense et très fournie. Je propose peut-être qu'on déborde un tout petit peu de quelques minutes pour prendre quelques questions ou quelques réactions, si vous êtes d'accord. Il y a notamment une réaction de Marie-Élodie qui dit « Je crois en cette nécessité d'envisager les scénarios du futur pour transformer en opportunité tous ces changements à opérer. Mais comment engager ce travail prospectif qui demande beaucoup de recul vis-à-vis du quotidien quand on est sans cesse noyé le nez dans le guidon en manque de respiration pour soutenir et faire vivre notre projet et nos actions associatives ?»
Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on le fait concrètement, hein, par des démarches très… très simple, hein, de formation ou d'accompagnement dans des projets associatifs réels qui partent de la réflexivité des acteurs et qui la nourrissent et qui la mobilisent dans des cadres méthodologiques tout à fait faits pour. Hein, donc, l'intérêt, c'est de surtout considérer que c'est possible et d'y aller avec beaucoup d'engagement pour qu'on embarque les convictions des acteurs autant que leur connaissance de l'action. Donc, ça se fait en pratique selon différentes modalités. Il ne faut pas renoncer à le faire, mais il faut aller chercher en fait des façons d'intervenir qui vont d'entrée de jeu prendre en compte qu'une association a une double dimension institutionnelle et organisationnelle, c'est-à-dire que la prospective associative suppose de partir d'une conviction forte sur ce qu'est une association avec cette dimension institutionnelle traçante. Donc on le fait en pratique.
D'accord, là c'est pareil, hein. Il y a vraiment énormément de réactions. Je ne sais pas si toi, Jean-Baptiste, on a repéré, parce que là, il y en a vraiment beaucoup.
Oui, moi, ce que ça m'évoque, notamment cette riche intervention de Christine, là, c'est quand même les travaux qui ont été menés récemment par le Fonds JEP sur l'évolution des associations. Il y a eu 4 cabinets d'études qui ont travaillé sur cette question de l'évolution des associations. Et si on met à part le cabinet Le Rameau, il y a eu une unanimité, en tout cas il y a 3 cabinets d'études sur 4 qui ont insisté sur un point qui était justement ce que disait Julie dans le chat, là, c'est-à-dire un état d'esprit qui consiste à s'arrêter, à appuyer sur le bouton pause pour faire de la politique, c'est-à-dire créer des tiers espaces qui permettent de réfléchir et de lever le nez du guidon. Donc, moi, j'avais envie vraiment de prolonger l'intervention de Christine sur le questionnement comment on met en œuvre ce travail prospectif, quelle méthode. Mais avant de penser à la méthode, il faut une capacité à appuyer sur le frein. Et donc, le premier enjeu politique, il est là, en fait. Donc, c'est assez compliqué, mais je trouve que, notamment, peut-être ce qui sera présenté dans le Transiscope en début d'après-midi, cette visibilisation et cette valorisation d'un certain nombre d'initiatives, aide, ne serait-ce qu'en regardant ce que font les voisins, à justement sortir un petit peu de cette sorte de course effrénée permanente qui caractérise le travail associatif.
Mais du coup, d'accord avec ça, hein, c'est-à-dire que le béaba de la démarche prospective quand on la pratique, c'est s'arrêter, construire une analyse des enjeux, une analyse située de la mettre à plat et de mettre en regard les valeurs qu'on porte, de remettre tout ça en dynamique. Mais effectivement, il faut se poser, il faut arrêter cette accélération où il faut tout de suite être efficace immédiatement. Il faut assumer le temps long, il faut assumer des processus. Et donc, il faut oser la réflexivité sur la pratique ancrée. Laisser le temps à cette analyse d'aller remobiliser les valeurs, de montrer à quel point elles sont fortes, refédérer les acteurs. Effectivement, c'est plutôt une affaire de processus réfléchi, de réflexivité, et surtout pas ce temps très accéléré et cette obligation du court terme, de l'efficacité à court terme qu'on nous impose. Hein, donc, on est vraiment dans une logique de pause. J'aime beaucoup cette formule qui vient d'être employée là.
Et peut-être souligner ce que dit Josette très très justement, là, l'importance des têtes de réseau et des fédérations pour jouer ce rôle, pour aider à jouer ce rôle.
Ok, ben on va peut-être conclure. On a débordé, c'est pas très très grave. On va peut-être conclure. Merci beaucoup Christine, merci à tous les intervenants de ce matin.